Slate Podcast.
Bonjour et bienvenue dans ce 33e épisode du Monde Devant Soi. Je suis Christophe Caron et chaque semaine, nous revenons sur l'actualité française et internationale avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate, et Alain Frachon, éditorialiste au Monde. Bonjour messieurs.
Bonjour Christophe.
Bonjour Christophe.
Avec nous aujourd'hui, Marion Van Rentergem. Bonjour Marion.
Bonjour Christophe.
Marion, en 2017, vous avez publié le livre Angela Merkel, l'OVNI politique aux éditions Les Arènes. Et si vous êtes avec nous, c'est pour votre connaissance fine de la chancelière allemande, car en début de semaine, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont présenté leur plan de relance pour l'Europe lors d'une conférence de presse commune, c'était le lundi 18 mai. Ce plan inédit prévoit que l'Union s'endette à hauteur de 500 milliards d'euros via la Commission européenne, et cet argent sera ensuite distribué aux États et aux secteurs qui ont été le plus impactés par la crise sanitaire. Alors on va revenir en détail sur les principes de ce plan qui, je le précise, n'est pas encore adopté, mais tout de même, Marion, Berlin qui s'associe à Paris pour créer de la dette en vue d'une relance, c'est quelque chose d'assez inattendu. Est-ce que Angela Merkel a brisé un tabou, celui de la rigueur budgétaire ?
Ça c'est sûr qu'on ne l'attendait pas, mais on n'attendait rien dans cette histoire, puisque cette réaction est inattendue à la mesure d'une crise sans précédent, totalement inattendue elle-même, et qui est la plus grave que l'Union européenne ait jamais connue. Donc on peut dire que le coronavirus aura au moins servi à faire à l'Europe et à l'Allemagne une sorte de révolution, dont elle avait besoin pour avancer. Et pour dire l'ampleur de la révolution, c'est qu'Angela Merkel au Bundestag avait parlé elle-même d'avancer dans l'intégration, elle a prononcé ce mot, et elle a même cité Jacques Delors, pour qui, comme on sait, il ne pouvait pas y avoir d'union monétaire sans union politique. Donc c'est vraiment une révolution quasiment copernicienne, c'est un renversement des perspectives auxquelles on n'était pas habitué en Europe. Alors, moi qui connais en effet un peu Merkel, je dirais que c'est à la fois une révolution pour l'Allemagne et pour Merkel. Peut-être qu'il faut expliquer qu'on avait un affrontement figé entre la philosophie du Nord et la philosophie du Sud, en gros, entre la philosophie des bons élèves et celle des mauvais, hein, des fourmis et des cigales. On avait la France, côté cigale, qui est incapable de maintenir un budget à l'équilibre et qui prône la solidarité. Et on a de l'autre côté, on a l'Allemagne, que du côté de la fourmi, qui elle a la religion du Schwarz-Null, du zéro déficit, et qui prône une discipline plus respectueuse des traités à la lettre. Et les traités précisant que l'Union n'est pas une union de transfert, elle n'est pas faite pour enflouer les dettes des autres. Donc la discipline, elle est importante aussi, et on en manque en France, mais c'est vrai que l'Allemagne avait tendance jusqu'ici à être trop figée du côté de la discipline et de la rigueur. Alors oui, c'est un tabou qui a été brisé avec cette initiative franco-allemande, mais c'est aussi une révolution pour Angela Merkel, et je pense que c'est important de préciser que dans la rédaction de cet accord, la France suggérait de ne pas mentionner précisément le montant de la somme empruntée et allouée, et c'est Merkel elle seule qui a insisté pour que l'on note noir sur blanc ce chiffre de 500 milliards d'euros. Elle a voulu le graver dans le marbre, c'est dire que à la fois on reconnaît la maniaque des détails, hein, c'est toujours celle qui met la main dans le cambouis au moment de la rédaction des accords quand on coopère entre Européens. Elle adore les détails, elle adore rajouter des adverbes, des mots et faire des ratures. Donc elle est toujours très très maniaque et précise, mais ça dit aussi l'engagement de Merkel dans cette affaire, bien plus que lors du sommet de Meseberg il y a quelques années où l'Allemagne était beaucoup plus floue sur la contribution au budget européen. Là, elle est vraiment très engagée, et on voit, comme je l'ai raconté dans mon livre, autant Merkel n'est pas une grande européenne au sens politique. Elle est souvent beaucoup trop allemande, elle n'a pas vraiment de vision européenne, mais elle est profondément européenne quand il s'agit des valeurs. Et elle réagit dans l'urgence, elle est généralement poussée par une sorte d'instinct quand il y a une urgence et qui fait résonner une fibre très sensible chez elle. C'est la troisième fois qu'elle le fait. Elle l'a fait une première fois face à la catastrophe de Fukushima, quand elle a décidé tout d'un coup l'arrêt du nucléaire en Allemagne, ce qui était là aussi, elle franchissait un tabou. Une deuxième fois, quand elle a décidé d'accueillir les migrants, quand même plus d'un million de migrants qu'elle a réussi d'ailleurs à faire intégrer de manière assez magnifique à l'Allemagne. Et voilà la troisième fois où elle a vu le danger. Alors, elle a vu le danger de manière égoïste hein, aussi, parce qu'elle a bien compris que même si l'Allemagne est la première puissance européenne, elle l'est précisément parce qu'elle exporte en Europe et qu'elle a besoin que l'Europe ne s'écroule pas. Mais c'est aussi l'européenne des valeurs qui a parlé là, qui a vu l'europhobie galopante en Italie. On a atteint un niveau d'europhobie en Italie comme jamais auparavant. Elle a vu la montée des nationalismes, elle a vu que la note française était en train de se dégrader. La cour de Karlsruhe a joué comme un déclic pour elle. Et on l'a bien vu dans son attitude au moment de la conférence de presse avec Emmanuel Macron. C'était intéressant d'ailleurs de porter une attention aux mots qu'ils ont employés l'un et l'autre et à leur body language, comme on dit. Macron était souriant. On voit qu'il était assez détendu, plus détendu que d'habitude, qu'il affichait une forme de triomphe. C'était en effet quand même la position française qu'il avait emportée. Ils avaient réussi à convaincre Angela Merkel. Et Merkel, elle, était froide comme d'habitude, pas du tout souriante, mais très ferme, très solennelle et très décidée. Le mot qu'elle a employé, je trouve, qui m'a le plus intéressée, c'est quand elle a parlé d'un changement de philosophie. Alors, c'est déjà arrivé en Europe hein, que l'Union européenne emprunte en son nom propre. C'est déjà arrivé que les pays riches aident les pauvres, ne serait-ce que par le biais des fonds structurels, mais c'est la première fois qu'on emprunte une telle somme au nom des 27, et surtout que ceux qui seront bénéficiaires de cet emprunt ne sont pas ceux qui devront le rembourser, puisque le principe de cet accord consiste à dire que les fonds iront aux régions les plus touchées, aux pays les plus touchés, mais ils seront remboursés par tous, en fonction des clés de répartition habituelles. Gros point d'interrogation dont on va évidemment parler aujourd'hui, c'est un accord, c'est une initiative franco-allemande. Est-ce qu'elle sera avalisée, entérinée par les autres pays, notamment par le club des radins, comme on dit plus élégamment le club des frugaux? Ça n'est pas du tout gagné. On en est pour le moment à l'accord franco-allemand qui est énorme, encore une fois, parce que symboliquement, le tabou est franchi. Donc, et l'Allemagne représentant le Nord étant une forme de moteur et d'aspiration pour les pays du Nord et d'inspiration aussi, c'est un énorme pas qui a été franchi, mais on est loin du compte.
Puis très sensible à ce qu'a rappelé Marion, à savoir les deux précédents de virages comme cela décidés par Angela Merkel à la surprise générale, c'est-à-dire la renonciation au nucléaire d'une part et l'accueil des migrants d'autre part. Et c'est tout à fait comparable et c'est tout à fait dans sa méthode. Et il faut peut-être aussi rappeler que elle est à un peu plus d'un an de quitter le pouvoir. Et après une très longue période à la tête de l'Allemagne et comme, j'allais dire, leader ou co-leader de l'Union européenne. Et probablement aussi a-t-elle, d'abord elle est libérée de tout poids électoral ou de tout calcul en vue d'une réélection ou d'une reconduction. Et ensuite elle, probablement a en tête de ne pas léguer une Union européenne affaissée ou brisée ou amoindrie. Elle veut rester comme quelqu'un qui aura consolidé les choses.
Jean-Marie, Marion, vous avez évoqué ces trois moments où Angela Merkel a pris des décisions fortes. Fukushima, l'accueil des migrants et maintenant le plan de relance. Ce sont des décisions pragmatiques. Est-ce que ce sont des décisions qu'elle peut payer sur le plan politique?
En tout cas, elle est libérée de toute ambition de reconduction, donc, hein, puisqu'elle est proche ou dans le compte à rebours de ce point de vue-là est engagée, à l'inverse d'Emmanuel Macron, pour qui c'est une victoire qui compte dans la perspective de sa propre réélection. Et il faut aussi rappeler que Angela Merkel, elle revient de loin, puisque elle était tombée assez bas dans les sondages de popularité et que les choses, le gouvernement bicéphale conservateur socialiste était en train, pensait-on, de se défaire. Et voilà qu'avec la crise du coronavirus, elle a repris pied au point même d'être aujourd'hui plébiscitée par l'ensemble de l'opinion allemande et d'ailleurs globalement approuvée dans le mouvement qu'elle vient de faire. Sa démarche suit de quelques jours le jugement du fameux tribunal de Karlsruhe, qui est la Cour constitutionnelle allemande. C'est l'équivalent donc du Conseil constitutionnel, qui a pris une décision qui a glacé un petit peu tout le monde, en tout cas tous les Européens, qui consistait à enjoindre à la Banque Centrale Européenne de faire dans les 3 mois la preuve que la politique que mène la Banque Centrale Européenne en défense de la zone euro et en défense de tous les États de la zone euro, que cette Banque Centrale Européenne ne va pas au-delà des traités européens. Alors ça pose deux problèmes. Le premier problème posé, c'est que cette question a déjà été soulevée devant la Cour de justice européenne. Et la Cour de justice européenne a déjà dit que l'action de la Banque Centrale Européenne n'est pas contraire aux traités. Et donc il y a là une entaille majeure dans le respect que l'on est censé avoir pour les décisions de la Cour de justice européenne. Donc voilà une Cour constitutionnelle qui se met en travers d'une décision de droit européen. Donc ça pose un énorme problème constitutionnel, si on le laisse évidemment en l'état. Et l'autre aspect des choses, c'est que cette Cour constitutionnelle est évidemment à dominante souverainiste, et qu'elle a pris une position qui est une position par définition souverainiste. Et donc la réponse d'Angela Merkel a été dans un premier temps de prendre la parole de façon solennelle devant son Parlement, devant le Bundestag, en faisant un plaidoyer très vigoureux pour l'intégration européenne. Comme l'a rappelé Marion tout à l'heure, elle a prononcé le mot « intégration » et elle a fait référence explicitement à Jacques Delors. Jacques Delors, dont Marion a rappelé également qu'il considérait que l'union économique et monétaire devait être complétée par une union politique, ou plus exactement ne pas se contenter d'être une union monétaire, mais en étant aussi une union économique et donc de convergence économique, tendre vers une intégration plus politique. Donc ça a été sa réponse politique immédiate, et ensuite ça a été l'accord dont on vient de parler sur les fameux 500 milliards qui seraient empruntés par l'Union européenne elle-même cette fois, et non plus par chacun des États. Donc c'est une réponse très ferme, mais je pense que le mouvement d'Angela Merkel n'aurait peut-être pas eu lieu, ou pas avec cette ampleur, pas avec cette force, si la Cour constitutionnelle s'était rangée comme elle aurait dû derrière le jugement de la Cour de justice européenne.
Jean-Marie a évoqué l'image d'Angela Merkel dans l'opinion allemande. Je voudrais qu'on parle maintenant sur le plan politique. Est-ce que cette décision prise à l'encontre des souverainistes de la Cour constitutionnelle, elle est seule à la porter sur le plan politique en Allemagne ?
Elle est soutenue certainement par la partie socialiste de la coalition gouvernementale, mais elle est aussi soutenue par son parti, par les chrétiens démocrates. Et ce qui est frappant aussi, c'est que le patronat qui a fait une déclaration commune avec le patronat italien et le patronat français, ce qui est quand même assez peu fréquent, pour soutenir aussi cette politique d'assistance budgétaire de la proposition franco-allemande. Plus encore étonnant, quelques jours avant, il y avait eu une déclaration commune des 5 grandes centrales syndicales françaises et DGB, qui est la grande centrale syndicale allemande, aussi pour soutenir ce type d'effort budgétaire. On voit donc à la fois l'opinion, semble-t-il, comme le disait Jean-Marie, reflétée par la presse, en tout cas par une bonne partie de la presse, comme sans doute les deux grands partis qui forment la coalition, naturellement, mais aussi les partenaires économiques et sociaux, sont derrière cette décision. Alors moi, je le crois aussi, si on veut continuer à chercher pourquoi, comment elle prend cette décision, qu'est-ce qui l'amène à prendre cette décision ? Bon, il y a ce qu'a dit Marion, ce qu'a dit Jean-Marie, l'impact aussi de la Cour constitutionnelle allemande, de cette étrange décision de la Cour constitutionnelle allemande, mais il n'y a pas que ça. D'ailleurs, si on écoute bien ce que dit Angela Merkel, elle dit, à mon avis, deux choses qui sont très importantes et qui expliquent sa décision. Décision qui montre aussi qu'on est d'une certaine manière au bord du gouffre. Elle dit, si l'Europe va mal, eh bien l'Allemagne ira mal. Hein. Et elle ajoute, c'est fini, le temps où l'État-nation pouvait agir tout seul, c'est terminé. Ce sont ses mots. Et enfin, elle dit, la situation présente met en danger la cohésion de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? Elle veut dire par là que la crise du Covid-19 a exacerbé la fracture qui lui paraît la plus dangereuse en ce moment au sein de l'Union européenne, qui est la fracture Nord-Sud. Et ça s'explique. Les trois grands pays du sud de l'Europe, les trois grands pays les plus importants sur le plan démographique et même économique, la France, l'Italie et l'Espagne, ont été les plus touchés par le Covid-19. Et il se trouve qu'ils sont les plus mal en point pour faire de la relance budgétaire, parce que ce sont les trois pays les plus endettés de l'Union européenne. Je mets à part la Grèce. Donc ce sont trois grands pays méditerranéens, qui sont le socle de toute l'Europe du Sud, qui sont les plus endettés. Et parce qu'ils sont les plus endettés, ils n'ont pas de ressources suffisantes pour faire une relance budgétaire du type que celle que l'Allemagne fait, de son point de vue, toute seule, si vous voulez, sans attendre l'Union européenne. Alors il faut que l'Union européenne vienne à l'aide de l'Europe du Sud, et notamment d'un secteur comme le tourisme, qui doit représenter entre 15 et 20% de la richesse nationale dans ces trois pays. Donc elle a peur pour la cohésion. Elle voit bien que non seulement le Covid-19 a frapper plus durement ces pays-là, mais en plus, ils sont les moins en situation de faire la relance budgétaire requise tout seul. Et donc, il faut un coup de main de l'Union européenne. Et pour ça, elle brise le tabou de ce qu'on appelle les transferts budgétaires, c'est-à-dire que l'Union européenne emprunte de l'argent. Cet argent sera distribué à ceux qui en ont le plus besoin, mais il sera remboursé collectivement. Il y aura une ligne dans le budget de l'Union européenne correspondant au remboursement de cet emprunt. Autrement dit, tout le monde rembourse, même si on n'a pas bénéficié de l'emprunt personnellement, individuellement.
Du coup, là, on est quand même très loin de ce qui s'est passé pour le sauvetage de la Grèce en 2010. À l'époque, des conditions très strictes avaient été imposées et il fallait rembourser l'argent avancé. Franchement, quand on a vu les débats qu'il y a eu lors du dernier budget européen, est-ce que vous pensez que ce plan peut passer, que les frugaux vont vraiment se mettre dans les pas de Merkel et de Macron et dire « Ok, on va payer pour l'Italie, on va payer pour le Portugal, pour la Grèce, on va leur donner cet argent. On sait bien que cet argent n'est pas magique et qu'il va falloir le sortir de quelque part. » Franchement, est-ce que les 27 vont se mettre d'accord pour débloquer une telle somme ?
Écoutez, il faut maintenant convaincre 25 autres pays. Je note une chose, c'est que avant, on disait, si le couple franco-allemand est d'accord, tout le monde suit. Mais cette période est terminée. C'est pas parce que le couple franco-allemand s'est mis d'accord que tout le monde va suivre. Et le front des opposants est important. Il y a d'abord les pays que vous avez cités tout à l'heure, Marion et Jean-Marie, les frugaux, Danemark, Pays-Bas, Suède, Autriche. Mais il n'y a pas que. Alors eux, ce sont des pays qui ont des finances publiques en bon ordre, ce sont des pays qui ont des économies ultra compétitives, et ce sont des économies, donc ce sont des petits pays de moins de 10 millions d'habitants qui ont nécessairement besoin du marché unique pour que leur économie fonctionne bien. Mais vous avez aussi l'Europe de l'Est aussi qui va accueillir ça de façon très modérée, sans enthousiasme. Pourquoi ? Parce que l'Europe de l'Est a peur que l'argent qui va servir à aider les grands pays d'Europe du Sud, eh bien, ce sera de l'argent en moins en ce qui concerne les fonds structurels dont ils bénéficient. Et puis, il n'y a pas que l'aspect budgétaire dans la déclaration franco-allemande. Français et allemands disent des choses très importantes sur le plan de la politique économique. Ils disent qu'il faut lutter pour l'harmonisation fiscale. Il ne faut pas qu'elle soit décidée à l'unanimité. Il faut aller vers une majorité qualifiée. Mais vous avez des pays au sein de l'Union européenne qui vivent du dumping fiscal, comme l'Irlande, par exemple, ou comme Malte, qui n'attire des investissements étrangers et des multinationales que parce qu'ils pratiquent un impôt sur les sociétés très inférieur à la moyenne du reste de l'Union européenne. Donc vous voyez, ça sera une négociation difficile. On entre là dans cette espèce de gigantesque essoreuse qu'est la négociation A27. On ne sait pas trop en quel état le plan va ressortir. Il faudra ensuite qu'il soit voté par chacun des parlements des 27, puisqu'il a une incidence budgétaire, puisqu'il s'agit d'argent public, et parce que l'Union européenne, contrairement à ce qu'on raconte, a un fonctionnement extrêmement démocratique.
Au-delà des 500 milliards qui pourraient être débloqués, il y a aussi dans le plan Merkel-Macron le contrôle des investissements dans les secteurs de la santé, de la défense, de l'énergie, bref, tout ce qui est stratégique pour l'Europe. Il y a aussi l'idée d'une construction d'une Europe de la santé, c'est-à-dire d'une coopération étendue en cas de crise comme celle qu'on a vécue. Tout ça, Marion, Jean-Marie, Alain, est-ce que ça ne va pas finalement dans le sens d'une Europe plus politique ? Est-ce que ce n'est pas une étape déterminante pour l'Union ?
Pour prolonger ce que disait Alain, c'est vrai qu'il ne suffit plus que le couple franco-allemand parle pour que tout le monde suive, mais en revanche, sans le couple franco-allemand, rien ne se fait. Donc c'est déjà une étape majeure qui a été franchie ces jours derniers. Encore une fois, on l'a beaucoup dit, Merkel a elle-même parlé, a cité ce mot d'intégration, elle a cité Jacques Delors. Donc en tout cas, c'est une étape. Il était temps, parce que sans cette étape, on allait vers un écroulement total de l'Union européenne, qui a quand même montré énormément de cafouillage au moment de cette crise. Mais disons qu'on en est un peu comme au tennis, comme quand il y a la suspension du match parce qu'il commence à faire nuit. Et là, la nuit va être longue jusqu'au prochain Conseil européen et jusqu'au prochain vote, qui doit donc se passer à l'unanimité. Alors il y a une version pessimiste, comme toujours en Europe d'ailleurs, il y a toujours le verre à moitié plein ou à moitié vide, hein. Il y a une version pessimiste qui serait que les intérêts des pays rigoureux, des pays du Nord, seraient totalement incompatibles avec ceux des plus endettés, qu'on réactive en effet cette fracture Nord-Sud qui est évidemment la plus grave, qu'on réactive aussi cette fracture Est-Ouest qui n'est qu'endormie et qui, comme le disait Alain, peut être ravivée du fait que les pays de l'Est peuvent voir d'un mauvais œil le fait qu'un emprunt qui se fait au niveau du budget puisse entraver les fonds structurels, qui est un peu leur principale motivation à faire partie du marché commun. Donc il y a une version pessimiste qui fait que les pays radins refusent l'accord, que la première ministre danoise, issue Fidel, qui est assez remontée, se dise « on arrête, on ne veut pas ». Ce à quoi elle s'oppose principalement, c'est au fait que les pays comme l'Italie et l'Espagne ne remboursent pas à hauteur des prêts qui leur seront alloués, et qu'elle est contre le fait, comme l'Autrichien, comme le Néerlandais, elle est contre le fait qu'il y ait un remboursement collectif et non pas à mesure des sommes allouées aux uns et aux autres. Donc ça, c'est la version pessimiste. La version optimiste, ce serait que les pays du Nord comprennent, mesurent que leur intérêt bien compris consiste à sauver la mise aux nations les plus fragiles, faute de quoi leur économie en pâtirait aussi, et que l'Union européenne, comme l'a dit Angela Merkel, si l'Union européenne est faible, l'Allemagne est faible, et ça vaut pour tous les pays du Nord. Donc s'il y a en tout cas cette version optimiste l'emporte, ce que je pense nous pouvons tous souhaiter, parce que sinon je pense qu'on est dans un inconnu et un chaos total, ce sera je pense la troisième révolution de l'Europe, après le traité de Rome qui a fondé le marché commun, et après le traité de Maastricht qui a présidé à la fondation de la zone monétaire. Je pense que c'est vraiment, on est sur un moment très important sur lequel peut se jouer l'Europe, avec un changement de philosophie, comme l'a dit elle-même Angela Merkel.
Finalement, on peut pas se dire quand même que le Brexit était une chance dans ce contexte. On n'a plus l'Angleterre qui bloquait souvent les grandes décisions.
Oui et non, on n'a plus l'Angleterre, mais on a la Hollande qui se substitue à la Grande-Bretagne. C'est vrai que si la Grande-Bretagne était restée dans le jeu, je pense que cette opération aurait probablement capoté, parce que l'Angleterre se serait battue contre et aurait sans doute été leader de la bande des quatre. Bon, maintenant, on verra ce que la Commission produit comme proposition de compromis, parce que très précisément, la Commission européenne va essayer d'intégrer quelques-unes des remarques ou des revendications des quatre pour faire en sorte que le consensus puisse être trouvé. On verra bien. Mais ce qu'il faut, je pense, rappeler, c'est que jusqu'à présent, la solidarité qui existait, elle était le seul fruit de la Banque Centrale Européenne. Et donc, si on veut une version un petit peu pessimiste des choses, pour reprendre la terminologie de Marion, on pourrait dire que le mécanisme qui vient d'être proposé par la France et par l'Allemagne fait l'économie ou va permettre de ralentir la Banque Centrale Européenne dans ses efforts de solidarité qu'on appelle le quantitative easing, c'est-à-dire la distribution d'argent. Et donc, on aurait à ce moment-là lâché la proie pour l'ombre. Ce qu'il faut, c'est que la Banque Centrale Européenne continue de pouvoir faire ce qu'elle fait, et ce qu'elle fait très bien, et que s'ajoute à cela le mécanisme qui est envisagé par la France et l'Allemagne, qui ne sont pas des prêts à la différence des autres mécanismes existants, qui sont des subventions. Et des subventions non pas en direction d'un État, mais en direction d'un certain nombre de projets. Et donc c'est ce qui fait que l'Allemagne aussi et la chancelière a pu s'avancer sur ce terrain, parce que il n'est plus question d'eurobond ou de coronabond, comme on en parlait auparavant, à savoir des prêts à certains États, comme on l'avait fait par exemple pour la Grèce. Qui dit prêt dit conditions assorties au remboursement de ces prêts, et qui dit condition dit une forme d'austérité, ce dont personne évidemment ne voulait, à commencer par l'Italie qui ne voulait certainement pas d'un mécanisme de cette nature. Donc il faut bien voir la différence essentielle dans ce qui existait avant, c'est-à-dire soit des mécanismes de prêt comme la Grèce a pu en bénéficier, et puis surtout l'action de la Banque Centrale Européenne comme seul mécanisme de solidarité, et la situation qui succéderait à un succès du plan franco-allemand, qui serait en effet désormais de l'argent levé par l'Europe et distribué sous forme de subventions en direction d'un certain nombre de projets pour aider les pays qui en auraient le plus besoin, somme remboursable ensuite au prorata des contributions budgétaires des uns et des autres, ce qui est aussi un élément fort de solidarité. Au fond, le destin de l'Europe qui se joue en ce moment, moi je pense qu'on était dans une phase jusqu'à présent avec le virus, le coronavirus, une phase terrible, parce que le message envoyé aux opinions, c'était de dire, en cas de crise majeure, et nous étions et nous sommes dans une crise majeure, les solutions sont nationales. Chacun ferme ses frontières, se replie. Alors il y a eu évidemment des gestes européens, par exemple des malades français soignés en Allemagne, mais c'était des gestes bilatéraux. Il n'y avait rien qui ressemblait à une mécanique de l'Union européenne. Donc un pas de plus après le Brexit, si j'ose dire, vers ceux qui considèrent que, ben, vous voyez bien que les solutions ne peuvent être que nationales. Et là, avec ce mécanisme tel qu'il est proposé, on entrerait dans une autre période où il serait clair pour les opinions européennes que la sortie de la crise et la sortie d'une crise majeure n'est possible et n'aura été possible que parce qu'on aura mis en place des mécanismes de solidarité européens. Par exemple, le financement du chômage partiel, une part du financement du chômage partiel que consent la France notamment, sera remboursée par des fonds européens. Donc ça montrerait au plus près des opinions, au plus près de leur destin des uns et des autres, que la sortie de la crise et le salut est venu aussi de l'Union européenne. Et ça peut renverser et j'espère effacer le legs terrible dans les esprits qu'a pu laisser la crise sanitaire que nous traversons.
Dernière question pour finir. On sent que tout ça repose quand même beaucoup sur les épaules de Merkel. Elle est chancelière depuis 2005. Elle a déjà connu 4 présidents français, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron maintenant. Vous avez rappelé, Jean-Marie, qu'elle ne se représentera pas après son 4e mandat. Est-ce que cette volonté intégrationniste, cette volonté politique de l'Allemagne, est-ce qu'elle peut survivre à un départ de Merkel du gouvernement allemand ?
Oui, parce que je pense que Angela Merkel n'a pas fait énormément pour l'Europe. Disons que ce 4e mandat, j'avais beaucoup espéré. Comme le disait Jean-Marie, elle était déchargée de toute perspective de réélection, donc de tout, théoriquement, de tout calcul électoral. Et je m'étais dit, elle a sa chance de laisser une trace dans l'histoire européenne en faisant un 4e mandat totalement pro-européen. Jusqu'ici, ça n'était pas du tout le cas. Elle était extrêmement décevante et terriblement germano-allemande. Donc là, c'est vrai que cette crise l'a réveillée, comme on l'a vu tout au long de l'émission. Cette crise a suscité un déclic et un réveil à la fois de l'Allemagne et d'Angela Merkel. Mais je pense que Angela Merkel, ce qui manquera beaucoup après elle, c'est qu'elle représente un type de dirigeant qui est en voie de disparition, qui est moins en voie de disparition en Allemagne que dans d'autres pays, mais malgré tout qui n'a absolument rien à voir avec ces dirigeants un peu tape à l'œil ou un peu trop lyriques comme on les voit en France ou franchement populistes et autoritaires comme on les voit ailleurs. Elle représente une forme d'incarnation des valeurs occidentales. C'est ça qui manquera le plus à l'Allemagne et à l'Europe après le départ d'Angela Merkel. En revanche, pour la politique pure, elle n'a jamais été très audacieuse, très entreprenante, ni très visionnaire. Mais c'est vrai que dans les successeurs qui se dessinent à la CDU aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de personnalités très charismatiques. Il y a celui qu'elle aurait tendance à encourager, c'est plutôt le Bavarois, parce que ça aurait un avantage pour elle, c'est d'être la dernière chancelière de la CDU, donc elle aurait intérêt à avoir un successeur, parce que c'est quand même une calculatrice Merkel, hein, une petite politicienne aussi, avoir un successeur qui ne lui ressemble pas trop pour garder l'avantage de son apport et de sa personnalité exceptionnelle. En revanche, c'est vrai que si c'est le cas, l'Allemagne sera un peu plus à nouveau, pas forcément plus européenne. Mais de toute façon, je pense qu'indépendamment de la personnalité du chancelier, on est à un moment de tournant de l'Europe. C'est pas une question de générosité, de charité chrétienne ou d'humanisme. C'est savoir quel est l'intérêt des uns et des autres. Et l'intérêt profondément de l'Allemagne, c'est d'être dans une Europe qui tient debout, qui n'est pas morcelée, écartelée et pleine de nationalistes et d'europhobes. Donc ne serait-ce que pour cela, je pense que la succession d'Angela Merkel ne changera pas grand-chose ni dans un sens ni dans l'autre.
Merci Marion, je rappelle votre livre, Angela Merkel, l'OVNI politique aux éditions Les Arènes. Merci Jean-Marie, merci Alain, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde Devant Soi.
Merci Christophe.
Merci Christophe.
Merci Christophe.
Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi, un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.